Le débrief 100% hack, le podcast sur l'actualité du Havre en Ligue 1.
La panenka d'Abdoulaye fait que ce match est pour moi rentré dans l'histoire du club.
L'espoir, moi, enfin, objectivement, je ne l'ai jamais perdu.
L'unité de tout un groupe, tout un club, ça génère justement la chance, comme on dit.
Hello les amis, très heureuse de vous retrouver en compagnie de trois invités. Aujourd'hui, le trio de gardiens du HAC s'installe à la table du débrief. Bienvenue à Moridio, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup.
Bienvenue aussi à Paul Arnier.
Merci.
Et il y prend goût puisque c'est sa deuxième fois au micro ici. Bonjour Lionel Mpassi.
Bonjour, bonjour.
Avec vous trois, on va évoquer le nul face à Lyon, le déplacement à venir face au Paris FC, le programme de ce mois d'avril qui peut être décisif. Un mot aussi évidemment de votre relation de gardien, la répartition des rôles, vos entraînements. Et puis on s'éloignera un peu du Havre pour parler d'actu chaude, la finale la plus longue de l'histoire de la CAN, la prochaine Coupe du Monde et vos carrières internationales respectives. Je salue évidemment, puisque face à ce trio, il y a un trio de journalistes, je salue mes camarades Luc Gallet du Courrier Cauchois, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Et Mathieu Billot de Foot Normand, bonjour.
Salut à tous.
Bon, pas de sélection hein, pour nous, on porte haut les couleurs de la presse normande. C'est parti pour le débrief 100% Hack saison 2, épisode 13.
Avec ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, jouer en infériorité face à cette équipe, c'est pas toujours facile de créer des exploits comme on a pu le faire contre Toulouse. C'est vrai qu'aussi Lyon a eu ses opportunités, qu'on a très bien défendu d'ailleurs. Après, c'est vrai que ça ne joue à rien. On aurait pu espérer mieux, mais on s'en sort bien, on est content avec un point.
Loïc Négo qui salue le travail de la défense havraise à l'issue donc de cette 26e journée de Ligue 1, c'était dimanche. En conférence de presse, lui, il se dit content de ce point pris face à l'OL, 4e du championnat. Et vous, messieurs, je vous pose la question respectivement, content, bon ou mauvais point pris? On se dit qu'on aurait pu aller gratter encore plus.
Non, Marie. C'est sûr. Franchement, quand on commence un match, on commence pour le gagner. Mais au vu de la physionomie du match, un point, c'est bien et on avance. On prend le point et on avance vers nos objectifs.
Ouais, physionomie parce que vous étiez à 10 contre 11.
C'est ça, exactement.
Assez dans une grande partie de ce match. Lionel, petite réaction aussi.
Bah ouais, je trouve que c'est un bon point. Les points qui sont pris ne sont plus à prendre. Et à l'aller, on avait perdu, on avait pris 0 point contre cette équipe-là. Là, on leur reprend un point. Du coup, c'est un bon point, je pense.
Et Paul, un petit avis. Vous étiez, vous, avec la réserve, je crois, ce dimanche.
C'est ça. J'avais un match à Deauville. Et je suis arrivé au stade pour la deuxième mi-temps, mais je rejoins Maury et Lionel, j'ai le même avec eux, et non, franchement, ils ont fait un bon match. On aurait pu aussi espérer mieux parce qu'on a eu des bonnes actions, mais c'est un bon point pris au stade, c'est bien.
Comme il le dit, on ne peut pas toujours s'imposer à 10 contre 11 comme c'était le cas face à Toulouse. C'était un peu exceptionnel ça, ce match.
Ouais, c'est sûr, contre Toulouse, on a réussi à avoir les 3 points à 10 contre 11 pendant tout le match. Maintenant, là, on est tombé sur une équipe de Lyon qui était bien en place. C'était une équipe, pour moi, plus difficile à affronter que Toulouse. Certes, ils avaient la fatigue de jouer tous les 3 jours, mais c'est une équipe qui est bien en place. Donc, non, franchement, comme Lionel l'a dit, les points qui sont pris ne sont plus à prendre. Donc maintenant, il faut continuer d'avancer.
Ça permet d'avancer. Mathieu, Luc, on disait il y a eu beaucoup d'occasions quand même dans ce match-là, beaucoup d'animation.
Ouais.
Bon ou mauvais point, vous auriez vu?
Bon point, oui. Moi, je pense quand même bon point, même si en face, c'était peut-être pas le meilleur Olympique Lyonnais parce qu'il y avait donc la fatigue des matchs de Coupe d'Europe, plus 10 absents, je crois, de mémoire au total. Donc, c'était pas le meilleur effectif en face. Mais oui, vu la physionomie du match et notre... Enfin, c'est pas Maury qui va dire le contraire, qui a quand même eu pas mal de grosses interventions quand même à faire sur cette rencontre-là, notamment deux qui me viennent en tête, là face à Henrik. Ouais, dans l'ensemble, moi je dirais que c'est un bon point et surtout ça permet de casser un peu cette spirale négative de ces 3 défaites consécutives auparavant.
Ce qui n'était pas arrivé depuis un bon moment, Mathieu.
Ce n'était pas arrivé, je crois, cette saison. Hein. Vous n'aviez pas fait 3 défaites de suite cette saison, hormis la série récente. Hein. C'est même quasiment sûr, d'ailleurs.
Ouais.
C'est même quasiment sûr. Moi, ce que je retiens, c'est le fait qu'il y ait eu un clean sheet. Surtout quand on a des gardiens comme invités. Maury, j'imagine que quand on est gardien et qu'on termine sans but encaissé, on doit être heureux.
Non, c'est sûr. Franchement, on bosse bien toute la semaine pour arriver le week-end et faire des grosses performances. Maintenant, comme vous l'avez dit, quand on finit le match avec un clean sheet, c'est sûr qu'on est d'autant plus heureux.
Combien de clean sheets cette saison, Maury?
Franchement, je compte pas.
C'est vrai?
7, je pense, non?
Il y en a un qui compte.
Là, il y a un bon là. 7. 7. Ah, 6 pour Maury, le sixième dimanche. Et donc le clean sheet pour Lionel contre
Monaco.
Contre Monaco. Il est excellent, il est excellent. encore plusieurs années en tant que joueur, mais après on le recrute comme consultant. voilà. Donc ouais, ça fait quand même 7 clean sheets en tout. C'est quand même pas rien. Non, c'est pas quelque chose auquel tu t'attaches particulièrement, Maury.
Quand je suis arrivé en début de saison, j'ai dit aux gars qu'avec Clermont on avait fait 10.
Ouais.
Maintenant ils le savent et que. Il en faut encore 3 pour atteindre les 10, donc on va voir.
On n'est pas loin.
Ouais, il faut continuer.
On n'est pas loin. Paul, un petit mot sur les clean sheets en tant que jeune gardien. On y reviendra tout à l'heure sur ton match. Bon, il y avait eu un but encaissé, mais la victoire était au bout, donc le principal était là sur ton match de Ligue 1.
Ouais, c'est ça. Moi, l'objectif, c'était de gagner, de faire la meilleure performance possible, mais surtout de gagner. Et bah forcément, quand tu es gardien, tu joues pour pas prendre de but. Et voilà, c'est ce que... Maury et Lionel, ils ont réussi à bien faire cette saison. Et je leur souhaite je nous souhaite aussi de continuer le plus possible à en faire jusqu'à la fin de la saison.
Mais est-ce qu'il y a un petit kiff supplémentaire quand on termine le match, même s'il y a victoire, mais qu'il n'y a pas de but encaissé, même à l'entraînement, quand vous mettez en échec vos coéquipiers, j'imagine qu'ils doivent prendre un malin plaisir des fois à vous tourmenter. Lionel, est-ce qu'on prend un petit peu de plaisir justement à les mettre en échec?
Bah oui, forcément, quand eux, leur rôle c'est de marquer, notre rôle c'est d'arrêter les buts. Et quand on sort d'une séance ou d'un match où on n'a pas pris de but, c'est sûr que la satisfaction elle est plus grande.
Et ça chambre un peu après, Maury, quand on a mis en échec les coéquipiers attaquants?
Ouais, non, ça c'est sûr. Surtout qu'on a une équipe avec beaucoup de chambreurs. Donc, quand eux, ils nous mettent des buts, ils nous loupent pas. Donc quand ils en mettent pas, nous aussi, on les loupe pas.
Okay. On fait peut-être un petit point sur le maintien, qui est l'objectif que vous poursuivez, qui est à ce stade plutôt bien avancé. 14e avec 8 points d'avance sur le barragiste qui est la JOCR. Comment vous voyez, je crois qu'on arrive dans le dernier quart du championnat, et il doit rester 8 journées si je me trompe pas.
Ouais.
Comment on envisage les choses? Il y a tous les concurrents directs qui vont arriver là durant le fin mars, courant avril. Est-ce qu'on se dit qu'on a bien avancé? Est-ce qu'on reste prudent? Comment tu envisages les choses, Maury, au niveau du maintien?
Non, une chose est sûre, c'est qu'on est mieux à notre place qu'à la leur. Maintenant, il faut prendre match après match et respecter chaque adversaire pour atteindre l'objectif final qui est le maintien. Et plus tôt on l'a, mieux ce sera pour tout le monde. Je pense que personne n'a envie d'attendre la dernière journée comme vous l'avez vécu l'année dernière.
Vous rêvez d'un petit... Lionel, est-ce que vous rêvez d'un petit maintien mi-avril avec tranquille, avec un dernier petit mois sans stress?
Bah, on rêve de se maintenir le plus tôt possible. Ce serait le mieux. Après, on est sur notre feuille de route. Certes, on a un petit peu d'avance, mais on sait que ce mois d'avril, il sera primordial avec que des confrontations directes. Pratiquement.
Ouais, on rappelle Paris FC, Auxerre, Nice, Angers, Metz. Ça commence dimanche avec le Paris FC.
Ouais. Et on sait que c'est un mois super important. Et à la fin de ce mois, on pourra avoir fait un grand pas sur le maintien.
Est-ce qu'on sent justement qu'il y a peut-être une certaine pression qui va commencer à monter encore un peu plus, justement par ces confrontations directes? Est-ce que vous la ressentez, cette pression supplémentaire ou pas?
Par la confrontation directe et le moment auquel on est dans le championnat, oui, c'est sûr que. On l'a dans un coin de notre tête. Après, on bosse toujours de la même manière, toujours aussi fort. Mais on sent qu'on arrive à un moment charnière de la saison.
Bon, Paul, c'était sympa. Tu l'as vécu par procuration, mais c'était sympa ce petit maintien à la dernière minute de la dernière journée.
Ouais, franchement, c'était voir la joie des gars à la fin à Strasbourg avec les supporters et tout. Franchement, c'est juste incroyable. Surtout que je suis formé ici, moi. Donc, c'était. Bon, voilà, j'étais pas trop avec le hack non plus. Parce
c'est
que
par procuration, la... du voilà, coup, tu ça. L'as vécu. Forcément.
C'est ça, mais incroyable. Franchement, j'étais trop content pour eux, pour nous, et c'était trop bien.
Mmh. Un peu de sérénité,
Maury,
avec un maintien.
Un petit maintien au mois d'avril, toi.
J'ai pas le droit de poser de questions.
En fait, c'est comme on est en semaine d'élection politique, je fais comme les hommes politiques. Je coupe la chic aux intervenants.
Le mauvais exemple. Ouais.
Exactement.
Non, je disais, bon, enfin, voilà, joli maintien l'année dernière, mais j'imagine qu'il y a un peu de sérénité, c'est comme le disait Maury, ce serait bienvenu, j'imagine.
Non, c'est sûr. Franchement, comme je l'ai dit, si on peut décrocher notre maintien dans le mois le plus tôt possible, et on va pas s'en priver. Donc, faut prendre match après match. Là, ça commence ce week-end à Paris. on a bien préparé, on a bien commencé la semaine. Maintenant, il faut bien continuer et espérer prendre les 3 points là-bas.
Avec un parquage qui sera a priori, je pense, bien garni, puisqu'on est quand même pas très loin de la capitale et il y a beaucoup de supporters qui ont prévu de faire le déplacement.
Je crois qu'il est même plein.
Ouais. Voilà, il est, ouais, parce que j'ai vu passer des choses là-dessus, des supporters. Enfin, on vous pose régulièrement la question, mais c'est important aussi d'avoir ce soutien là en extérieur. À l'extérieur. Non,
franchement, c'est clair que c'est important. Déjà, à domicile, on les entend bien et depuis le début de saison, ils remplissent le stade et ils font du bruit dans tout le stade. Et à l'extérieur, les avoir aussi avec nous, il faut pouvoir en profiter. Là, on joue à Paris, c'est à côté et j'espère qu'à la fin, on fera tous la fête ensemble.
Est-ce qu'il y aura du monde aussi pour vous dans les tribunes ou pas, non, un peu la famille?
Ça, c'est sûr, il y a toute ma famille qui va venir au match et j'espère les rendre fiers.
En tant que francilien.
C'est ça.
C'est pareil pour toi, peut-être, Lionel aussi.
Ouais,
il y a pas mal d'attaches.
Francilien, et oui, il y aura du monde toujours quand on joue dans la région.
Bon, toi, Paul, en tant que 100% normand, forcément, il y a du monde à chaque fois qui vient à tes matchs.
Oui, oui.
Même si c'est un peu de l'autre côté de la Normandie.
Non, c'est à la frontière entre la Bretagne et la Normandie, mais c'est bien normand.
Ça va faire plaisir à certains, ça.
Là, il marque un point.
On va pas ouvrir ce débat-là.
On rappelle juste qu'il manque, j'ai presque envie de dire, 2 victoires pour se maintenir. Ça ferait 33. On dit qu'en général, l'année 1, ça s'est joué à 34. Donc voilà.
Ouais, puis sachant que derrière les équipes qui sont vraiment dans la zone rouge ne prennent pas beaucoup de points sur ces dernières journées, donc
n'avance pas trop.
J'ai envie de dire que là c'est vraiment les performances qui font la concurrence et c'est pas à nous d'imposer une concurrence. En tout cas, c'est pas ma philosophie sur ce poste d'imposer une concurrence autre que par les performances, parce que il y a besoin d'une stabilité pour ce poste-là, au minimum émotionnel.
Les mots de coach Digard dans le débrief 100% AC, c'était avant le match face à Lens. Il était alors questionné sur la hiérarchie entre vous, Lionel et Maury, alors que vous étiez, Maury, tout juste revenu de la Coupe d'Afrique des Nations. Et finalement, c'est Lionel qui était dans les cages à Bollaert après avoir joué face à Rennes et Monaco, on le disait tout à l'heure. Et on se souvient que vous étiez rentré aussi à la mi-temps contre Toulouse. Petite question, Maury, quand vous êtes revenu pour le match face à Strasbourg, il y a eu cette victoire 2-1, est-ce que c'était important de revenir aussi avec une victoire et un soulagement, de se dire je reviens en forme après ma tête était à la canne, elle est de nouveau en championnat et je suis efficace.
Ouais, après c'était sûr, après le club m'avait laissé une semaine après la CAN où j'ai pu bien me reposer, remettre la tête à l'endroit et après les émotions vécues pendant la CAN. Après, je sais que Lionel allait faire le boulot et comme il l'a fait, que ça soit lui ou moi, en vrai, le principal, c'est que le club est un gardien, même avec Polo, on l'a vu, un gardien compétitif pour aider l'équipe à atteindre les objectifs fixés par le club.
Vous avez gardé un œil quand même, évidemment, sur ce qui se passait au Havre
ouais, non, c'est pendant sûr, la compétition. Bah, avant chaque match, j'envoyais des messages et après chaque match, on discutait. Donc, non, ça, c'est sûr que notre relation pendant la CAN ou même après, ça n'a pas bougé.
Est-ce que le plus dur pour toi, Maury, c'est pas en fait que de ne pas avoir joué pendant quasiment un mois, comme on rappellera tes numéro 2 ou numéro 3 avec le Sénégal, vous êtes allé au bout de la compétition, on y reviendra en fin d'émission, et du coup, ça fait quasiment un mois sans match officiel, tu as bénéficié quelques jours off. Est-ce que ça faisait pas une coupure trop longue? Est-ce que c'était pas ça un petit peu l'interrogation que tu pouvais avoir ou de te dire tiens, faut que je me remette rapidement dans le bain parce que peut-être un mois sans compétition, c'est long?
Ouais, c'est sûr. À partir du moment où on a joué contre Strasbourg, à partir du moment où je suis revenu, ça faisait 2 mois pile que j'avais pas joué.
Ah, quand même, donc c'est pas rien quand même.
C'est pas rien. Donc du coup, le plus difficile, c'était mentalement être prêt directement et la concentration sur 90 minutes après 2 mois. Et du coup, non, après, franchement, avec Nico, on a bien travaillé, donc ça s'est bien passé.
On écoutait un petit peu le coach Digard qui parlait, effectivement, parce que c'est vrai que Lionel a fait un excellent intérim et Paul aussi, quand il a fait son match de championnat. Est-ce que c'est malgré tout, je crois que Lionel, on t'avait déjà posé la question, je crois, quand t'es venu, est-ce que c'est important quand même que la hiérarchie, elle soit bien claire et bien définie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, un peu importe qu'il soit numéro 1, numéro 2, numéro 3, forcément c'est beaucoup mieux d'être numéro 1, mais est-ce que c'est important que la hiérarchie soit bien définie comme le coach le sous-entend et que ça soit pas remis en question parce que le copain il a fait une bonne performance ou ainsi que tel? Je sais pas, c'est ton point de vue un petit peu, Maury, là-dessus, vu que c'est toi qui étais absent du coup et potentiellement c'est toi qui avais quelque chose à perdre si la hiérarchie n'était pas claire.
La hiérarchie, elle est bien définie par le club, certes. Après, je me dois d'être performant. Il y a une hiérarchie, mais si je suis pas performant, derrière Lionel, il est performant, c'est normal qu'il joue. Et par exemple, si moi je suis pas là, Lionel il est moins performant, Polo il est performant. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit juste avant, il y a une hiérarchie, mais au final, le coach et le club font ce qu'il y a de mieux pour le club en mettant le gardien le plus performant.
Ouais, donc c'est plus sur le papier en fait, du coup, quoi.
Ouais, c'est sur le papier. Parce je peux pas venir moi à l'entraînement me tourner les pouces et dire que je vais jouer le week-end parce que je suis numéro 1, ça existe pas ça.
Comment il est les gars à l'entraînement du coup, Maury?
On se tire la bourre. Hein.
Ah ouais,
ouais. On se tire la bourre et je pense que c'est pour ça que qu'on est performant quand on fait appel à nous parce qu'on travaille dur avec Nico, comme l'a dit Maury, ça se passe bien depuis le début de la saison et on est préparé à toute éventualité au cas où on fait appel à nous.
Paul, est-ce que ça te permet de tirer vers le haut d'avoir deux gardiens qui ont quand même une solide expérience du monde professionnel, qui se montrent performants le week-end quand on fait appel à eux? Toi, t'es encore un jeune gardien, 19 ans, c'est ça?
Ouais, bah c'est ça, c'est comme t'as dit, je suis un jeune gardien, donc j'ai encore plein de choses à apprendre. Donc sur les séances d'entraînement, moi, je suis toujours bien conseillé par Lionel, par Maury, même par Nico aussi. Donc en plus, ce qui est bien, c'est que Lionel et Maury, c'est deux profils complètement différents, mais qui se complètent super bien. Donc bah moi, j'ai tout à apprendre de leur qualité et ça me fait avancer au quotidien comme ça.
Est-ce que tu peux nous dire en quoi ils sont différents du coup?
Comme
on a le témoin parfait là pour
c'est deux profils différents parce qu'on a, après je vais rentrer plus dans la spécificité du gardien.
Ouais, mais on va faire semblant de s'y connaître en football, on fait ça tous les week-ends, t'inquiète pas, on connaît bien le rôle.
Non, t'as les gardiens aériens et les gardiens terriens, on va dire. Et donc Lionel, c'est un gardien aérien, il met beaucoup de dynamicité dans tout ce qu'il fait.
De dynamicité?
Ouais, c'est vrai.
Dynamisme.
T'as les chambreurs, on les a...
Ouais, on est très chambreurs avec Polo. En général,
il te laisse rien passer.
Non, on loupe pas en général.
C'est dur.
Mais moi, si je veux dire dynamicité, je veux dire dynamicité.
Tout à fait. C'est comme ça qu'on dit à la frontière de la Bretagne et de la Normandie.
C'est dur ce qu'il te faut.
Du dynamisme. Et s'il vous plaît.
T'as de la chance, après c'est son tour, tu dois l'écrire lui, donc c'est bon, tu pourras.
Ouais, bah justement, et Maurice c'est un gardien plus posé, avec un jeu au pied exceptionnel, donc voilà, j'apprends au quotidien sur avec eux, et même Nico, il a beaucoup de choses à m'apprendre encore.
Avant de revenir justement sur Nico Douchez, parce qu'on va on va vous poser la question, comment vous travaillez avec lui. On entendait Didier Digard parler de stabilité émotionnelle aussi sur le fait de savoir que bah voilà, il y a une hiérarchie qui existe. Et est-ce que c'est important aussi pour la tête, quoi, de savoir que finalement chacun a son rôle et que je sais pas, Lionel.
Bah ouais, je pense que c'est super important à notre poste. Comme il l'a dit, émotionnellement parlant, il faut avoir une stabilité, faut être calme. Et d'avoir l'assurance d'une hiérarchie, ça apporte plus de sérénité, je pense. On a pu le voir il y a quelques années au PSG où les gardiens étaient constamment...
Sur le grill, en quelque sorte.
Bah, oui. Encore un peu aujourd'hui, si
oui,
je peux m'arrêter.
Oui. Ouais.
Encore un peu aujourd'hui, mais c'est pas...
Il y a des fans du PSG autour de la table, si j'ai bien écouté les dernières confs. je regarde les matchs, je trouve qu'ils sont un peu sur le grill encore.
Je pense que c'est pas une atmosphère de travail... paisible, quoi, où le gardien est stable émotionnellement, du coup ça peut porter à préjudice des fois.
Ouais, c'est le côté avoir un peu un mental aussi à toute épreuve, voilà, c'est justement quand on est à ce poste là spécifique qui est gardien de but, voilà, c'est ce mental qui est très important, non, pour évoluer dans et être performant, justement cet aspect mental, ça c'est, est-ce que ça se travaille justement au quotidien, cet aspect là
bah ouais, ouais, je pense que l'aspect mental, c'est un des aspects les plus importants pour nous. Si t'as pas de mental, tu peux pas faire ce métier-là parce que nous, dès qu'on fait une erreur, bah, c'est but et on est tout seul dans notre but.
Et ça paye cash. Ouais.
Et ça paye cash. Quand t'es gardien, t'es numéro 2, bah, tu dois t'accrocher, travailler dur tout le temps. Mmh. Et mentalement,
et être prêt au pied levé aussi.
Voilà,
c'est ça,
être prêt quand on fait appel à toi. Du coup, mentalement, faut être prêt.
C'était le match Toulouse, c'est ça que t'es rentré à la mi-temps?
Ouais, ouais, Toulouse, je suis rentré.
Parce que Maury était blessé. T'avais pris un coup juste avant la pause, hein, c'est
ça? Ouais, c'est ça.
Bah, première fois que ça m'arrivait dans ma carrière, je savais pas du tout comment ça allait se passer.
Il se passe beaucoup de choses quand même cette saison pour toi, si je peux me permettre.
Faut croire.
En Ligue 1,
ouais.
Hein,
Bon, on est dans le premier club français, du coup.
Ouais, c'est ça. Ouais. Défie-toi, c'est en période d'élection, tu sais pas ce qui va se, pas ce qui va se produire la prochaine fois.
Non, mais oui, le mental il prend une place super importante.
Justement, sur cet aspect-là, j'imagine que c'est un aspect, un des aspects abordés par votre coach des gardiens, Nico Douchez. Comment ça se passe justement avec lui au quotidien? Bon, c'est vrai que notamment vous le connaissiez déjà de par le vécu, je crois, au PSG. Mais voilà, justement, comment ça se passe un petit peu au quotidien avec Nicolas Douchez?
Ah bah mentalement, il nous pousse tout le temps. Il est très dur avec nous tout en étant, comment dire,
posé et divertissant. En gros, il est...
Ouais, il est très dur et en même temps très chill. Et,
il y a les temps de travail et à côté où tu peux rigoler avec lui, tout ça. Mais quand c'est sérieux et c'est le boulot, c'est le boulot.
Il pose un cadre, quoi,
C'est ça. Mais ce qui est bien avec lui, c'est que... Bah après, moi, je suis un cas particulier par rapport à Maurice Lionel, parce que je suis encore en formation, on va dire. Et ce qui est bien, c'est que tout ce qu'on va faire, que ce soit des petits jeux ou quand je vais être avec les joueurs et tout, à chaque fois, il va me donner des petits défis. Par exemple, on va ranger le matériel à la fin de l'entraînement, il reste des ballons sur le terrain, il va me dire, bah vise ce plot qui est là-bas, ou vise le mini-but, tout ça, et on se donne que des petits jeux comme ça. Et c'est ce qui te permet... dans le temps de progresser sur des petits trucs au quotidien comme ça, et c'est vachement bien.
Un peu de vous stimuler, quoi, en quelque sorte, tout le temps, quoi.
Constamment.
Maurice, ça a compté dans ta venue au HAC, le fait que Nico Douchez soit l'entraîneur des gardiens?
Oui, c'est sûr, ça a compté. Dans les discussions qu'on a eues en avant-saison, c'est la personne avec qui j'étais le plus en contact du club. Après, il y avait Mathieu qui était en contact avec mon agent, mais c'est sûr
pour la partie un peu contractuelle et compagnie,
voilà, le fait que Nico soit là, c'est sûr que ça a facilité les choses.
Parce qu'on rappelle, Lionel et Maury, vous avez partagé une seule saison, je crois, au PSG. Tu as fait, Lionel?
Non, moi j'ai fait 3 ans à Paris.
3 ans, voilà. Ouais. Et donc vous avez partagé ensemble
ces trois années.
À la formation parisienne, et Nico Douchez était gardien chez les pros à ce moment-là.
Après, Maury l'a plus côtoyé que moi parce qu'il faisait partie à part entière du groupe. Moi, je montais sur quelques séances de temps en temps quand j'étais en U19.
Réserve,
ouais. C'est ça.
Et est-ce que ça fait bizarre de se faire entraîner par un garçon avec lequel on a joué même à l'entraînement, j'ai envie de dire?
Après, en vrai de vrai, Nico, on a une relation spéciale. C'est-à-dire que c'est grand frère, petit frère. Directement, dès qu'on est monté avec les pros, il nous a pris sous son aile avec Mike Maignan. Et du coup, on a eu une relation où il nous... Comme aujourd'hui on a avec Paul et Lionel, ça veut dire qu'ils nous conseillent et ils voulaient que notre bien à nous au final. Et c'est ce qui a fait qu'on a bien progressé durant ces années en pro ensemble.
Qui a signé le premier WAC, Lionel ou Maury? Maury, quand t'es arrivé en deuxième?
Ouais.
D'accord, ok. T'es venu parce que tu voulais retrouver ton copain Maury ou pas? Parce qu'on dit que vous étiez ensemble aussi à Rodez les six derniers mois de la saison dernière.
Non, ça en a fait partie parce que je sais qu'avec Maury...
Il voulait plus quitter, Paul. c'est une love story.
Je sais qu'avec Maury, on a une super relation. Du coup, c'est beaucoup plus simple au quotidien de bosser avec quelqu'un que t'apprécies. Mais non, c'était plus le challenge qui m'a motivé à venir.
Paul, est-ce qu'on peut dire un mot et plus qu'un mot d'ailleurs, de ton match ou de tes matchs, parce que ces messieurs étant partis tous les deux à la CAN fin décembre début janvier, tu as gardé les cages du HAC à 2 reprises, les premières chez les pros. Il y a eu tout d'abord un match de Coupe de France avant Noël
contre Amiens,
ouais, qui collectivement s'est pas super bien passé pour respecter la tradition avraise de la Coupe de France, visiblement, avec une défaite 2-0. Mais par contre, peut-être beaucoup plus important, même certainement d'ailleurs, tout début janvier, il y a eu le match de championnat contre Angers, avec cette victoire 2-1. C'était le match des jeunes d'ailleurs, hein, parce que c'est Kenny Kétan et Noah Moumou qui ont marqué.
J'ai célébré dans le bus, je m'en rappelle, en sélection et tout, j'ai crié.
Ah oui, tu as suivi dans le bus. Bon, forcément, j'imagine que c'était un moment important que tu attendais aussi depuis, même si tu n'as que 19 ans, mais presque depuis longtemps, c'est un peu paradoxal à ton âge. Comment tu as vécu ce match?
Bah, franchement, c'était 2 semaines très particulières parce que, comme tu as dit, jouer à 19 ans dans les buts d'une équipe professionnelle, bah, c'est rare. Et c'était juste du kiff, en fait. Bon, c'est les 2 semaines où, je vous mens pas, j'étais concentré à mort. Et voilà, j'ai essayé de mettre le moins de pression possible, mais forcément, elle était quand même là.
Les projecteurs étaient un peu braqués, forcément.
C'est ça, parce que tout le monde m'attendait un peu au tournant aussi. Mais, euh, Mais la pression, elle était là toute la semaine. Et une fois que je suis arrivé à l'échauffement avec Nico, là, j'étais concentré dans ce que je faisais. Et après, je voulais donner le meilleur de moi-même. Donc, comme tu as dit, le match contre Amiens, c'est pas passé comme on voulait. Mais à titre individuel, je trouve que j'ai quand même réussi à faire des bonnes choses. C'était ma première, donc c'est jamais facile. Et contre Angers, après, c'était un jour de réussite parce que comme la KV, elle a brillé. Et moi, ça m'a fait trop plaisir de déjà d'avoir joué, d'avoir gagné, mais en plus de voir mes deux coéquipiers où ça fait 5 ans qu'on est ensemble maintenant au centre de formation briller comme ça, franchement, j'étais super content pour eux.
Et d'autant plus de le vivre en plus au stade Océane.
En plus, ouais. En plus, parce que ça aurait pu être à l'extérieur, on sait pas, mais là, c'était au stade Océane. Et devant les supporters, en plus, moi, je suis très proche des supporters parce que ça fait un moment que je suis là. Je connais le capot des supporters et tout, c'était trop bien. En plus, avant qu'on commence le match, comme je le connaissais justement, il m'a pas mal encouragé avec les gars et moi ça m'a soulagé, ça m'a fait trop du bien.
D'accord. Est-ce que tu en avais besoin de cette bonne performance chez les pros? Forcément, ta carrière elle est devant toi, mais est-ce que tu en avais besoin malgré tout? Parce que bon, on évoquait que c'était peut-être un petit peu compliqué, même, alors je sais pas si c'était un discours pour les médias, mais on évoquait aussi éventuellement une concurrence avec votre collègue Alex Texera qui garde les cages 19 aussi, si je me trompe
c'est
pas.
C'est ça, ouais.
Est-ce que tu en avais besoin du coup de... Parce que contre Angers, moi je l'ai vu le match, je trouvais que tu avais fait vraiment une bonne perf. Est-ce que tu en avais besoin?
Oui, j'en avais besoin. Ça m'a fait aussi un peu tourner la page par rapport à mon prêt qui s'était mal...
Ouais, t'as été prêté en Belgique, en D2
Belge.
C'est
ça, en D2 Belge, et ça s'est très mal passé.
C'était moyenasse, on va dire.
Au Frambourin, pour être...
Exactement. Et comme j'ai dit, ça a juste vraiment tourné la page parce que c'était une mauvaise période de ma jeune carrière là-bas. Et une fois que c'est passé, après j'ai été soulagé, on va dire. Et oui, on se tirait la bourre à l'entraînement avec Alex pour essayer de se concurrencer au maximum et que celui qui jouait, même si c'était lui qui jouait, j'allais... Moi, ça fait un moment que je suis au centre de formation avec lui, donc si c'était lui qui était amené à jouer, j'aurais été trop content pour lui et je lui aurais souhaité de faire un bon match aussi.
Premier match à 19 ans en Ligue 1. Pour les deux autres gardiens qui vous entourent, c'était donc quel âge le premier match?
T'es un an, moi. C'est pour ça que j'essaye de lui dire à chaque fois. T'as le temps, Polo. Hein.
Doucement, laisse-moi jouer.
J'essaye de lui donner des conseils, de le conseiller, que de pas être trop pressé, parce que chacun sa carrière, c'est pas parce qu'il y a des gardiens de sa génération qui jouent dans leur club pro, même si c'est en Ligue 2, que ça doit être pareil pour lui. Il a le temps de bien bosser, là il est bien entouré, il est dans des bonnes conditions, du coup j'essaie de lui donner des petits conseils, mais ouais, moi 31 ans du coup.
Et Maurice, c'est un petit peu particulier parce que t'as fait une partie de ta carrière à l'étranger.
Ouais, c'est ça. Mais en Ligue 1, mon premier match était avec Clermont, je crois, à 26, 27 ans.
Voilà, ouais. Même si t'avais joué en D1 étrangère auparavant.
C'est ça. J'avais joué en Bulgarie, au Portugal et en Suisse.
Ouais. Mais malgré tout, comme tu dis, quand on est gardien, il faut être un peu plus patient qu'encore plus que pour les joueurs de champ. Enfin, est-ce que c'est comme ça que vous pouvez le ressentir?
C'est sûr. C'est ce que j'essaye de dire à Paul. Parce que les nouvelles générations, ils veulent vite jouer et enchaîner. Mais le plus important, c'est de pas faire un faux départ. Ça veut dire que de commencer, partir, se voir trop beau, trop haut, et au final, se retrouver sans rien ou être dans le dur et pas savoir se relever. Pour moi, le principal, c'est de mettre le plein. Et une fois qu'on part, même si c'est en CFA, National, D2 ou Ligue 1, de plus s'arrêter et de faire que avancer. Donc, c'est ce que j'essaye de dire à Paul au quotidien, de pas être trop pressé. Et au final, quand il aura sa chance, faut qu'il la saisisse à fond et qu'il décolle pour de vrai.
Est-ce que tu avais, à son âge, le même état d'esprit? Ou du coup, tu as eu besoin de faire des expériences qui t'ont amené à avoir cette réflexion-là?
J'étais plus borné, je pense, à son âge. J'étais à Paris, j'ai vu ce que peu de gardiens de mon âge avaient vu. Donc après ça, je me suis dit que je voulais jouer directement. Et comme je lui dis, j'ai fait un faux départ. C'est-à-dire que je suis parti... au Portugal en D2 parce que je voulais absolument jouer. Au final, après le Portugal, où à titre individuel ça s'est bien passé, collectivement ça s'était pas très bien passé. J'ai fait une année sans club, après je suis parti en Bulgarie 6 mois, j'ai refait une année sans club, et c'est vraiment à partir du moment où je suis reparti en Suisse au Lausanne Sport
ta carrière pro elle a vraiment démarré là, quoi.
Elle a vraiment démarré, mais sinon c'était rempli d'embûches et faut C'est pour ça que je conseille Paul de, de faire le plein et de, quand il part, partir à fond de balle et plus s'arrêter.
Et des bons exemples aussi. Parce que Lionel, on en a aussi parlé la dernière fois, mais à Rodez, tu deviens titulaire à
26, ouais, 26, 27.
Après avoir passé une, deux saisons.
4 ans.
4 ans comme doubleur.
Ouais. Non, mais 4 ans, c'était long.
Oui, bon.
C'était long, mais mentalement, j'ai réussi à tenir et j'ai été récompensé un jour ou l'autre. Comme Polo a travaillé dur depuis le début de la saison et il a pu montrer de quoi il était capable contre Angers.
Contre Angers, ouais. Paul, je voulais te demander, parce que on y reviendra, on va aborder les parties internationales de ces messieurs. Mais toi aussi, tu as une actualité internationale comme t'es vice-champion du monde U17, c'est ça ? Et vice-champion d'Europe d'ailleurs aussi. U18 peut-être, vice-champion du monde.
La Coupe du Monde, c'était U18,
ouais.
Mais comme on n'avait pas passé le mois de janvier, c'était U17.
Ouais, voilà. T'as été élu meilleur gardien de ce tournoi-là. On a logiquement beaucoup parlé de toi. Est-ce que ça a été évident à digérer quand on est aussitôt, aussi jeune, un peu peut-être mis sous le feu des projecteurs de manière assez légitime hein, par tes performances, mais forcément ça décuple un petit peu les attentes et peut-être toi aussi tes envies en se disant bon ben j'ai vécu ça, j'aimerais vivre d'autres choses.
C'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Je pense qu'il y en a d'autres de mon équipe à ce moment-là qui ont mieux géré que moi. Cette lumière, on va dire, qui est mise sur toi très tôt. Et en plus, ça me fait rire parce qu'on a eu la conversation avec Luca Gourna il y a pas longtemps. Et on reparlait de cette génération 2002 qui avait fait la Coupe du Monde au Brésil. Et avec certains joueurs qui, après cette Coupe du Monde-là, bah, on n'a pas. À ce moment-là, ils étaient là-haut. Et après, on n'en a plus trop entendu parler. Et c'est pour ça, c'est qu'on s'est dit, en fait, c'est dur. C'est dur de revenir. D'une Coupe du Monde comme ça où t'as toute la lumière, où tout le monde se dit oui, tu vas machin, tu vas là, t'écoutes tout le monde un peu, et ça peut vite te monter à la tête. Et moi, quand je suis revenu de la Coupe du Monde, à ce moment-là, j'étais avec la N3 au Havre. Et justement, en fait, comme tout le monde m'attendait au tournoi, je me suis dit, bah, je vais essayer de rester dans mon coin, de bosser, et d'être le plus humble possible, en fait. Et ça n'a pas été facile, mais j'ai quand même beaucoup bossé pour ça. Et voilà, j'ai fait pas mal de matchs en N3 où je trouve qu'ils ont été bons, mais j'ai cravaché pour revenir. En plus, j'avais vu une interview du coach qui avait dit que j'avais cravaché pour revenir, et il a eu raison. Et voilà, maintenant, ça se passe bien. Je continue à bien bosser avec Lionel Maury, et puis adviendra ce qu'il adviendra, mais il faut bosser.
C'était la douce voix de Moridio, je pense que c'était votre voix, hein, ouais, dans le débrief 100% hack, le 20 janvier dernier, donc, dans les rues de Dakar où le bus des champions d'Afrique a défilé. Vous avez repartagé cette vidéo il y a quelques heures, donc je me suis permis de la piquer sur le compte Instagram. Après, évidemment, les rebondissements au sujet de cette finale de la CAN, donc 2 mois après, la Confédération africaine de foot a finalement décidé la victoire du Maroc sur tapis vert au motif que les Sénégalais, on s'en souvient, avait quitté le terrain. Je ne sais pas si Mathieu voulait revenir un peu dans les détails. Ou
on va revenir brièvement, on va plutôt écouter Maury. Je pense que tu as dit l'essentiel. Parce qu'on va, si on explique tout, je pense qu'on y est encore, on y est encore demain. Non, je pense que le plus intéressant, c'est éventuellement d'écouter la réaction de Maury, vu que t'es concerné en premier lieu. J'imagine que tu as appris ça comme tout le monde hier, peut-être en suivant les matchs de Ligue des Champions comme tout le monde.
C'est sûr, hier... Étant donné qu'on est en période de Ramadan, on m'a invité à manger. C'est Yanis qui m'a invité à manger chez lui. On regardait le match du PSG. Et à la fin, il y a Yas qui dit « Hey, Maroc, ils sont annoncés vainqueurs de la CAN. » Donc, je me suis dit « Qu'est-ce qu'il raconte ? Il fait une blague ou quoi ?» Et du coup, je m'approche, je vois qu'il monte l'article, etc. Et en vrai de vrai, c'est du grand n'importe quoi. Pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Et la fédération a fait un communiqué. Et les joueurs, chacun va faire un communiqué de son côté. Mais c'est du grand n'importe quoi et c'est pas ce que le football africain avait besoin, en tout cas pour moi. Et c'est limite honteux et voilà.
En tout cas, j'imagine qu'on se dit, on pourra pas nous voler ce qu'on a vécu. Enfin, voilà. En tout cas, ce défilé en bus, ça restera gravé quoi qu'il arrive.
C'est sûr, si la CAF décide au final de donner la coupe au Maroc, le match de bonhomme, les émotions, etc. Ce qu'on a vécu là-bas et la coupe qu'on a soulevée là-bas, on l'a soulevée sur le terrain, on l'a pas soulevée par email ou par SMS ou quoi que ce soit. Donc il y a un seul vainqueur et tout le monde a vu que le vainqueur c'était nous. Donc il y a pas de doute là-dessus. Maintenant après tout le reste, ce qu'ils veulent, comme Idrissa Gueye l'a dit, le trophée, etc. C'est éphémère. Et à l'heure actuelle, il y a une situation bien plus préoccupante où on a 18 supporters à nous qui sont enfermés en prison là-bas depuis la finale. Donc il y a des soucis à régler bien plus importants que ça.
En tout cas, vous êtes tombé un peu de la chaise, j'imagine. Je regarde aussi Lionel parce que vous étiez à cette CAN. Est-ce que, un peu comme tout le monde, je devais penser à un 1er avril ou un truc en voyant l'info aussi ou...
Ouais, j'y ai pas cru au début. Mais après, j'ai vu tous les articles qui passaient. J'ai vu que ça semblait vrai. Mais comme Mouril a dit, ça enlèvera pas toutes les émotions qu'ils ont pu vivre là-bas et le trophée qu'ils ont remporté sur le terrain, quoi.
On précise juste que la Fédé sénégalaise du coup a fait appel devant le TAS, le tribunal arbitral du sport. Donc il y aura encore des rebondissements. On ne sait pas de quoi il adviendra.
Ça va survenir encore deux ou trois mois après les faits, mais c'est grave. Mais...
Bon, toujours est-il, je pense que
Maurice. Il y aura une autre actu dans.
Maurice, il a bien
mois.
Résumé la situation. C'est qu'au final, bon, voilà, on reproche à certains joueurs sénégalais d'avoir quitté quelques minutes le terrain. Pour le match, on l'a vu en partie, mais je crois qu'on était à Rennes. Je crois que c'était un jour de Rennes-Le Havre, si je me trompe pas. Ouais. D'ailleurs, vous étiez dans les cages, Lionel. Mais voilà, ça n'a pas entravé la bonne marche sportive de la finale, je veux dire. Donc, la finale, ce sont les Sénégalais qui l'ont gagnée. Sportivement, en tout cas. Enfin, je sais pas ce qui se passera dans les tribunaux, mais bon, ça ressemble plus à de la politique que à du foot. Là, c'est pas exactement la même chose. On parlera de football aussi avec le Sénégal parce qu'il y a un petit rendez-vous sympathique qui attend le Sénégal et peut-être aussi le Congo.
Quelle transition.
J'ai fait ça toute ma vie, c'est magnifique.
Oui, parce qu'il y a ces barrages intercontinentaux, on en avait un petit peu parlé la dernière fois que vous êtes venu. Là c'est donc le 31 mars,
c'est demain.
Voilà. Très peu de temps. Bon, ça s'approche, voilà, comment vous percevez ce match? Alors c'est difficile parce qu'on sait pas qui sera l'adversaire finalement.
À l'heure H où on se parle, on sait pas qui sera l'adversaire encore. Après, nous, on sera prêt à jouer contre soit la Jamaïque, soit la Nouvelle-Calédonie, le 31. Et comme je vous l'avais dit avant la CAN, ça arrive très vite, mais il nous reste encore un match ici de championnat avant ce match-là.
Ouais, il y a Paris FC, et après, tu pars en sélection.
C'est ça, ouais. J'aurai le temps.
Sachant que c'est au Mexique, hein, quand même.
Ouais, c'est ça, ouais.
C'est pas un petit déplacement, quand même.
Ouais.
J'allais dire le nom de la ville, mais je...
Guadalajara.
C'est bien ça, c'est Guadalajara.
il est fort, Lionel, il est fort. Non, donc oui, ce sera le vainqueur de Nouvelle-Calédonie, Jamaïque
ouais. Quand même.
Sans mettre la pression au Congo, on peut dire que vous aurez le statut de favori au coup d'envoi. Même si vous êtes bien passé pour savoir que le statut de favori...
Ouais.
Ça ne veut rien dire dans les barrages africains.
Dans le foot, ça veut rien dire. Après, c'est sûr que si on se fie au classement FIFA, oui, on est devant ces deux nations. Mais je me rappelle d'un discours du coach lors de l'élimination contre l'Algérie qui nous prévenait que l'adversaire, ce sera un match aussi difficile que le huitième de finale qu'on a perdu contre l'Algérie. Du coup, on va bien bosser. On sera prêt le 31 mars pour pouvoir affronter une de ces deux équipes.
Alors, on aurait peut-être dû te poser la question en off avant l'émission. Est-ce que tu sais si vous vous qualifiez, dans quel groupe de la Coupe du Monde vous serez?
Ouais, dans celui du Portugal, Ouzbékistan et Colombie.
C'est donc bien ça.
Vous avez totalement raison. Bah c'est voilà. Beau. Et on peut peut-être rappeler le groupe du Sénégal. Enfin, Maurice peut peut-être nous rappeler le groupe du Sénégal.
Il y a une certaine nation dedans.
Il y a une petite confrontation qui va intéresser beaucoup de gens.
Non, c'est sûr. Le premier match, il y a France-Sénégal. Après, il y a la Norvège. Il y a un barragiste, franchement, si je dis, je sais plus c'est qui, franchement.
Ouais, franchement, on t'en voudra pas parce que nous non plus, on sait pas qui c'est. Donc, on va pas faire semblant d'être plus intelligent. Toujours est-il que le premier match pour les, ce sera France-Sénégal.
C'est ça.
Et ça, forcément, ça rappelle quelques souvenirs.
Peut-être des bons souvenirs.
Ouais. En quelle année,
2002, non?
Oui, j'allais dire en quelle année tu es né, mais.
Ah, 93.
Ah, bah oui.
Et donc, t'avais déjà quand même bien vécu ce match,
du coup. Tu te rappelles où tu étais, j'imagine?
Ouais, je sortais de l'école et je m'en rappelle. Et après, il y a Eladi Diouf qui est avec nous en sélection qui nous le cravache tout le temps. Donc, c'est sûr que ça sera un bon match à jouer pour toute l'équipe.
Ouais, et donc ça rappellera forcément des bons souvenirs à la nation sénégalaise, au peuple et au monde du football sénégalais.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr.
C'est un peu la fiche de rêve quand même, on se dit, pour lancer la compétition. Et...
Franchement, pour nous, sachant qu'on a beaucoup de binationaux, c'est... ou de joueurs tout court qui ont joué en France. Franchement, c'était l'affiche rêvée. Maintenant, à nous de bien préparer ça et de faire ce qu'on sait faire contre la France.
Je crois qu'il y a un match amical aussi qui se joue à Paris, non?
Là, on joue au Stade de France où on va présenter notre trophée qu'on a fièrement gagné au Maroc.
Fièrement.
Ah, c'est énorme, bravo.
Donc, je voulais pas enfoncer le couteau.
Non, on joue contre le Pérou le 28 et le 31. On va emmener notre trophée encore une fois à Dakar et on va le présenter à tout le peuple sénégalais, même s'ils l'ont déjà vu.
Non, mais donc il risque d'y avoir pas mal d'ambiance aussi pour ce match amical contre le Pérou. Hein,
c'est ça, contre le Pérou au Stade de France.
Donc, ah ouais, mais c'est énorme ça.
Ouais. Non, franchement, c'est top.
Ah bah, le Sénégal, ils sont bien placés au classement FIFA. Ils peuvent se permettre de faire des matchs comme ça.
Le Congo, ça joue au Stade de France aussi?
Non, pas encore. On doit progresser encore. Ouais.
Bon, j'ai vu quelques stades, quelques vidéos de stades aux États-Unis ou au Canada.
Ouais,
Mexique.
Ça a l'air pas mal.
C'est pas mal, hein. Ouais. Je pense que ça va être bien quand même, les stades. Ouais. Même pour les barrages, là, ça va être sympathique.
Donc, ça sera une première Coupe du Monde, du coup, pour toi, Maurice?
Première Coupe du Monde, ouais. J'ai fait 2 CAN et là, ça sera ma première Coupe du Monde.
J'imagine qu'il y a déjà un peu hâte d'y être et voilà, de découvrir ça. En plus, aux États-Unis, cette compétition.
Non, c'est sûr, on est tous pressés d'y être. D'ailleurs, tous les Sénégalais, on est tous derrière le Congo. On souhaite vraiment que ce soit la 10e nation africaine qui se qualifie pour la Coupe du Monde. Donc, on a vu notre coach, il en a parlé et on est tous derrière. Je sais que quand ils avaient joué le Nigeria, si je me trompe pas, on était tous devant le match. On était tous contents parce que... Le Sénégal et le Congo, malgré les derniers résultats qui sont en notre faveur, on est en tout cas très, très amis. Donc on est tous derrière eux, on espère qu'ils vont se qualifier. Et voilà.
On attend de voir la prochaine confrontation Sénégal-Congo, si Maury dit la même chose, si le Congo gagne.
On a perdu il y a 2 matchs, on a fait match nul. Logiquement, la prochaine fois, on devrait
faire un petit 8e de finale. Un petit 8e et peut-être même des 16e maintenant de finale de Coupe du Monde, c'est ça?
Ouais, ce serait sympa.
Ouais, ça aurait de la gueule en tout cas.
Ouais.
Petite question, c'est quand même un rêve de gosse, enfin, j'imagine, la Coupe du Monde. Lionel hoche la tête, mais...
j'en ai déjà vécu une avec les jeunes de l'équipe de France, c'était au Mexique d'ailleurs. Et déjà à l'époque, c'était le pays s'arrêtait pour nous. On avait l'impression d'être des adultes. Mais oui, une Coupe du Monde senior, c'est le rêve d'une carrière professionnelle.
Aboutissement.
Paul peut aussi le dire parce qu'il en a vécu une Coupe du Monde jeune.
Ah ouais, c'est un moment hors du temps. C'est trop bien. Franchement, c'est kiffant parce que t'as l'impression d'être. Non, mais vraiment.
Il y retourne.
Ouais. En plus, c'était en Indonésie, moi. Donc une culture complètement différente de la France. Et t'as vraiment l'impression d'avoir un quotidien de professionnel, voire même plus, parce que t'as plus de staff au quotidien pour toi. Et j'ai fait une finale. Bon, les Allemands, ils nous ont encore battu au penalty, mais c'était une compétition incroyable.
On leur laisse les compétitions jeunes. Ouais, et puis une fois dans le monde adulte, faudra prendre la revanche. C'est là que ça comptera vraiment.
Exactement. On va terminer avec le tour d'horizon des autres formations du HAC. Et je prends mon téléphone parce que
je sais pas si on peut donner le score parce qu'il est pas extrêmement positif.
Non.
Bon, il y avait effectivement un match de Coupe de France cet après-midi contre l'OL pour les féminines. Et le temps que je tapote sur mon téléphone,
ouais, c'est 7-0 le score.
Voilà. merci à Mathieu puisque ça venait pas et je l'avais pas encore noté. Bon, on se doutait que ce serait évidemment difficile pour les...
C'était pas le tirage rêvé, on va dire.
Voilà,
non, c'est moins qu'on puisse dire.
C'était à Lyon.
À Lyon, et double confrontation en plus, puisque en championnat...
En championnat, ils avaient mieux résisté. Voilà, parce que je crois 3-0 le score. Défaite, ouais. Voilà, donc après, voilà.
Le prochain rendez-vous pour les filles de Maxime Di Liberto, ce sera dimanche 15h avec la réception de l'OM au Stade Océane pour peut-être définitivement valider le...
C'est un match qui est peut-être le plus déterminant de tous pour les filles du HAC. Ouais.
À choisir.
Clairement celui-là.
Que se qualifier.
Oui, et puis comme l'autre est passé, on va prendre le prochain.
Voilà,
du coup.
Exactement. Chez les jeunes, un match nul et vierge pour la réserve dimanche. On le disait avec Paul, vous y étiez. 0 partout face à Villers-sur-Mer avec un groupe réduit là aussi à 10 dès la première mi-temps. Le HAC qui est toujours 4e devancé de 13 points par le leader Saint-Lô. Chez les U19, derby frustrant face à QRM, défaite 3-2. Les Havrais devançaient rapidement 2-0, qui sont parvenus à égaliser. Mais il y a eu un dernier but quevillé à la 90e minute, donc le HAC est 9e. Et puis en U17, une défaite 4-2 sur le terrain de Versailles. Les Bézos qui sont 8e. Un grand merci. Mathieu voulait ajouter quelque chose.
Pour en compléter sur les autres équipes du HAC, je ne sais pas si Paul tu y seras, mais je crois qu'il y a un petit match sympathique qui attend en Challenge Sport la semaine prochaine.
Le derby, ouais, d'accord. Et c'est
mercredi, je crois, dans une semaine. Hein.
C'est ça, ouais. Ouais, exactement. Et c'est au Havre en plus.
Ouais.
Il me semble que c'est à Gagarine. Moi, ces matchs-là, et...
il est couché presque.
C'est ça, exactement. Ouais. C'est dès qu'on joue Malherbe, c'est une grosse rivalité. Donc moi, dès que je l'ai joué en 19 ou en 17, et ben, fallait gagner. Fallait gagner, et je me rappelle d'un match en N3, là-bas. On gagne 3-1, et à la fin du match, on a célébré comme pas possible avec les joueurs dans le vestiaire.
Bon, bah rendez-vous mercredi prochain alors.
On verra ce que ça donne. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus à notre micro, vous installer à la table du débrief 100% HAC. On va suivre évidemment le résultat du prochain match face au Paris FC dimanche 17h15 avec un beau parkage, on le disait. Podcast à retrouver sur tendanceouest.com et chez nos partenaires Mathieu Billot de Foot Dormant, merci. Et
merci à vous.
Luc Gallet du Courrier Cauchois, merci beaucoup.
Merci.
Fin de partie et à très vite pour un nouveau débrief.